Chapitre 4. Liette avait-elle bien empêché la mort des deux femmes? Pour le savoir, il nous faut retourner au modeste restaurant où elle avait laissé les complices attablés. Après le départ de Liette, l'usage sage avait regardé Miko bien en face. « Comme ça, toi, lui dit-il, tu consens volontiers à rester à la comédie. » À ne rien faire. Miko croyait avoir enfin échappé à la complicité d'assassinat. Cette question lui fit froid, mais il garda son aplomb. « Dame, nous n'avons pas le droit de priver Soufflard de sa part, et puisqu'il n'y a que 3 jours à attendre, il... » La voilard l'interrompit. Ben, « qui nous empêche de faire le coup aujourd'hui et de lui mettre sa part de côté ? Il est bon pour nous rendre plus tard l'appareil. » Le sage se redressa. « Oh, c'est une idée, fit-il. Qu'en dis-tu, Miko ?» Miko, surpris par cette subite proposition, blêmit sans pouvoir répondre. Le sage s'accouda sur la table et fixant bien son complice. « Écoute, vieux, lui dit-il, on m'a dit de me méfier de toi, et je me méfie. » Le moyen d'empêcher les gens de bavarder est de leur faire mettre la main à la pâte. Donc tu y mettras la tienne, et jusqu'au coude, mon garçon. Ou bien, foi de le sage, je te cache dans le ventre certains couteaux que tu connais. » Miko avait retrouvé sa présence d'esprit en face du danger. Il feignit de rire. « Es-tu bête, le sage ? Mais si j'hésite, c'est que je songe à une chose que t'as oubliée, Tourneau. Laquelle ? Mais nous n'avons plus les fausses clés que Soufflard a emportées, fait disparaître. Ah, tiens, c'est vrai. » Miko, se croyant sauvé, respira. Mais la volard se mit à rire en disant « Mon petit, non, maman volard est plus prudente que ça. Quand elle devine une affaire bonne, elle tâche d'avoir ses outils en double. Elle n'est pas depuis si longtemps en ce bas monde sans savoir qu'une clé peut se casser. » Et en parlant, la volard fouillait dans le paquet de hardes déposé près d'elle. Elle en tira un trousseau de clés. « Tu vois qu'on se garde toujours une petite poire pour la soif, mon cher humain. » Miko resta atterré à cette vue. Le sage lui prit le bras et le fit lever en lui disant d'un ton où perçait la menace de l'homme décidé à tuer sur place à la plus petite résistance. « Allez, en route !» Et sans quitter prise, il l'entraîna dans la rue pendant que la volard soldait la dépense. Miko espérait pouvoir s'enfuir en route. Le sage arrêta un fiacre au passage. « Monte !» lui dit-il d'un ton bref. 10 minutes plus tard, la voiture le déposait à l'angle des rues Filippo et du Temple. En route, Miko s'était décidé pour l'assassinat. Entre le couteau dont le menaçait son complice et le fer dont la justice pouvait le frapper plus tard, il avait préféré la mort lointaine à laquelle il avait l'espoir d'échapper. Les 3 misérables remontèrent la rue du Temple. Tout en marchant, ils cherchaient des yeux le fils de la volard qui devait les attendre dans les environs. Il paraît que Monsieur Alfred avait de bien plus importantes affaires qu'il appelait en un autre quartier, car il avait jugé bon de ne pas se trouver au rendez-vous. « C'est là !» dit tout à coup la volard. Ils s'arrêtèrent, la maison portait le numéro 91. Écoutez le programme de la pièce, poursuivit-elle. Je vais entrer et vous me suivrez. Vous attendrez dans l'allée que je sois arrivé devant la loge des portiers. Ils n'ont qu'à les 3 vasistas pour répondre aux visiteurs. Tout en leur demandant un nom inconnu, je boucherai complètement le vasistas avec ma tête et avec ce paquet de hardes sur mon épaule, et à ce moment-là, vous filerez dans l'escalier.
Compris, dit le sage.
C'est au 3e, alors vous reconnaîtrez les 3 serrures. Il se peut que la femme soit proche chez elle. Si elle vient pas vous ouvrir quand vous aurez frappé, allez en avant les fausses clés. et alors l'ouvrage sera fait à la douce. » Et si la femme est chez elle ? Demanda le sage d'un ton sinistre. Oh, alors tant pis pour elle. À votre frappement, elle viendra ouvrir. Seulement, n'ayez pas de précipitation. Laissez-la refermer la porte derrière vous et regagnez la chambre sur le devant. Le bruit de la rue étouffera ses cris.
Pauvre femme, il vaudrait mieux qu'elle fût sortie, fit Miko, ému.
En ce cas, je ferai le guet devant la maison, et si je la vois au loin arriver pour entrer, je vous crierai le signal et vous aurez le temps de détaler. Je vous préviens que le secrétaire est dans la seconde chambre.
Allô, dit le sage.
La vieille l'arrêta. Ah, maman, voyons d'abord si j'ai pas oublié aucune recommandation.
Elle mit la main devant ses yeux pour mieux réfléchir.
Ah oui, je savais bien, j'oubliais quelque chose. La femme est vigoureuse. Flanquez-lui votre premier coup dans le dos, le bien entre les deux épaules. Allez, maintenant, bébichon, à l'ouvrage.
Elle s'engagea dans l'allée, suivie par les deux hommes. Le sage, toujours méfiant à l'égard de Miko, fermait la marche. Ainsi qu'elle l'avait annoncé, la vieille boucha hermétiquement le vésistas des concierges en leur demandant un nom en l'air. Les deux hommes passèrent inaperçus. Arrivés au troisième étage, ils trouvèrent la porte aux trois serrures. Le sage sortit d'une poche de côté son couteau, dont la pointe était piquée dans un bouchon, qu'il retira. Puis il glissa l'arme dans la manche gauche de son paletot.
« Maintenant, frappe !» dit-il à Miko.
Miko frappa trois coups. Ils tendirent l'oreille. Nul bruit ne retentit à l'intérieur.
« N'ayez pas !» souffla Miko avec un frémissement de joie. « Frappe encore !» répéta le sage.
Miko heurta de nouveau trois fois. Aucun bruit ne se fit entendre.
Ben, ma foi, voilà une femme qui a de la chance, dit le sage. Allez, en avant les fausses clés.
Là voilà, paraît-il, ne fournissait que de la bonne marchandise, car les serrures jouèrent sans résistance. Les deux bandits entrèrent et refermèrent le battant sans bruit. Cette porte ouvrait sur un long couloir obscur qui conduisait à deux chambres situées sur la rue. Ils suivirent le couloir en silence jusqu'à une porte vitrée qui donnait dans la première pièce. Miko, qui marchait le premier, recula subitement.
« Qu'y a-t-il ? » demanda le sage. « Regarde, » fit Miko en lui cédant la place.
À travers le vitrage, on voyait une femme qui, la fenêtre ouverte et penchée sur l'appui de la croisée, regardait dans la rue. Tout à la terrible émotion de leurs actes, les deux misérables n'avaient pas entendu la musique d'un régiment qui, à ce moment, suivait la rue. Et c'était pour mieux écouter que cette femme avait ouvert la fenêtre au passage de cette musique, dont le bruit l'avait empêché d'entendre les coups frappés à la porte par les sinistres visiteurs.
« Que faire ? » demanda Miko. « Ben la tuer !» répondit le sage.
Pour l'intelligence des faits qui vont suivre, il nous faut un instant suspendre notre récit pour retourner la rue de Nevers dans cette chambre de Miko où le matin même s'étaient rencontrés Aliette et l'écureuil. À cette heure, les événements vont se multiplier et se précipiter avec une telle vitesse qu'il nous faut un par un en tenir compte, car faute d'avoir négligé le plus petit incident, nous deviendrions inintelligibles pour le lecteur. De là pour nous la nécessité de retourner au plus vite au logis de Miko. Après le départ d'Aliette, l'écureuil ayant compris, au peu de mots dits par la belle blonde, qu'il perdait son temps à attendre Miko, n'avait pas tardé à quitter la chambre. Quelqu'un avait-il visité le logis après son départ ? Nous l'affirmerions presque, car le logement était dans un tel état de bouleversement qu'on pouvait croire qu'une minutieuse visite domiciliaire avait été pratiquée dans la chambre. Tous les meubles ouverts étaient vides de leurs tiroirs. Un vieux fauteuil avait été éventré d'un coup de couteau, et le crin arraché par poignée du siège et du dossier prouvait qu'une main avait fouillé le fauteuil. En quelques endroits, les carreaux du parquet avaient été descellés, et dans l'espace mis à découvert, le plâtre se trouvait creusé. 2 heures tout au plus s'étaient écoulées depuis que les deux misérables avaient pénétré chez la marchande du temple, et nous retrouvons Miko dans son logis de la rue de Nevers, où il venait de rentrer à l'instant même, pâle, tremblant et surtout essoufflé et haletant, comme s'il avait fourni une longue course. Le trouble du gredin était tel qu'il ne s'aperçut pas d'abord de l'état désastreux dans lequel se trouvait son mobilier. En entrant, il s'était laissé tomber sur une chaise en s'écriant « Enfin, j'ai pu m'échapper !» Et à mesure qu'il reprenait haleine et qu'il recouvrait son calme, ses yeux, errant par la chambre, se rendaient compte de l'état des choses. Il se releva effaré. Quel pouvait être celui qui était venu faire cette fouille ? Miko se rappelait fort bien avoir donné rendez-vous à l'écureuil. Mais l'agent de police n'avait aucun intérêt à exécuter une visite domiciliaire, qui lui en apprendrait moins que tous les renseignements que Miko avait promis de lui donner. Le délateur chercha donc en lui-même quel complice avait dû venir en son absence bouleverser ainsi son mobilier. « Bon, c'est Aliette et Soufflard !» s'écria-t-il. Et il se dit que l'histoire de l'arrestation de Soufflard annoncée par Ali à deux restaurants n'était qu'un conte inventé pour le lancer seul avec le sage dans une affaire dangereuse et pendant laquelle il devait visiter le logement. Car Miko n'ignorait pas que la bande, le sachant avare, lui supposait en une somme cachée dans quelque coin. « Bon, ils sont venus pour voler mon magot !» se dit-il. Puis il ajouta avec un douloureux sourire, « Si cet imbécile de Soufflard qui court après ce magot pouvait se douter qu'il a eu un moment dans les mains. » À ce moment, on frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda Miko. « Aliette !» dit la voix de la blonde. « Enfin, je la tiens !» murmura Miko, qui aussitôt cria. « Oh, je t'ouvre à l'instant !» Il ramassa une longue corde volée sur un camion et qui se trouvait dans un coin de la chambre. Puis il courut au lit hors des ordres dont il arracha la couverture. Et venant se placer derrière la porte, il l'ouvrit à sa visiteuse. Aliette avait à peine fait 2 pas dans la chambre que la couverture s'abattit sur sa tête. En 3 secondes, elle se trouva prise et enveloppée dans les plis sans pouvoir faire aucune résistance. Miko acheva de la lier avec sa corde, puis il la porta sur son lit. « Maintenant, écoute-moi, lui dit-il. La prétendue arrestation de Soufflard était un conte, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Aliette, dont la voix arrivait étouffée. « Mais dans quel but ?»« Je désirais éviter un meurtre. » « Dis plutôt que tu voulais me le faire commettre afin de pouvoir mieux me perdre. Tu t'étais entendu avec le sage pour qu'il m'entraînât chez la femme de la rue du Temple. »« Non, ce n'est pas vrai. C'est cependant ce qui est arrivé après ton départ. » Toute liée qu'elle était, Aliette fit un violent mouvement de désespoir. Après avoir tout fait pour tenir le serment donné à l'écureuil d'empêcher l'assassinat, elle apprenait tout à coup que les bandits, malgré l'absence d'un complice, avaient poursuivi leur projet. Ce mouvement fut mal interprété par Miko. « Oh, ma toute belle, c'est en vain que tu gigotes. Tu perds ton temps, t'es bien ficelée. »« Ah, poursuivit-il, nous en voulions donc bien à notre petit Miko pour désirer ainsi le voir monter sur l'échafaud dont nous écartions à mon chéri. » Malheureusement, on ne réussit pas toujours dans tout ce qu'on désire, mon enfant. Et pour cette fois, j'ai tiré mon coup de la lunette, car la femme n'est pas morte. Miko ne comprit pas l'intonation que la blonde avait mis dans la voix quand elle s'écria « Elle est sauvée !»«
Pour le moment du moins. »«
Oui, nous sommes allés chez elle. » Barbonneur, elle avait ouvert la fenêtre dont elle ne s'écarta pas. Ses cris pouvaient être entendus de la rue, et puis, je te l'avoue, le cœur m'a manqué. Au moment où le sage allait la prendre à la gorge, je me suis enfui.
Aliette répéta, « Elle est sauvée !»
Elle était heureuse que la lâcheté de Miko ne l'eût pas rendue parjure à la promesse faite à l'écureuil. Mais une invincible épouvante la saisit quand elle écouta Miko lui répondre «
Oui, enfin, sauvée pour le moment, je te le répète, ma belle Aliette.
Mais il arrive souvent, comme dit le grand monde, qu'en voulant cacher en l'air, cela vous retombe sur le nez. Tu as voulu préserver ton soufflard, n'est-ce pas? Or, en ce moment, le sage, qui s'est douté que tu nous avais menti avec ton histoire d'arrestation, doit avoir été vous rendre visite à votre logement de la rue des Noyers. Et en ton absence, il va sans doute reprendre avec soufflard l'affaire que j'ai trouvée trop chaude pour moi. »
À ces mots, Aliette s'agita convulsivement pour rompre ses liens.
« Non, 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 ma bonne, ne te remue pas ainsi, c'est inutile !» lui criait la voix railleuse de Miko. « Ah, dame, ma fille, je comprends ta colère. Avoir voulu faire guillotiner un camarade et penser que, bien portant, il ira au contraire voir raccourcir l'amant aimé qu'on voulait sauver, c'est vexant !»
Aliette s'agitait avec une rage désespérée.
« Oui, oui, » continuait Miko, « on lui coupera le cou à ton soufflard adoré, car c'est un garçon qui ne boude pas à l'ouvrage. Le sage n'aura pas besoin de lui cogner longtemps sur la tête pour le décider. Ils s'entendront vite maintenant que tu n'es pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Avant 24 heures, la femme sera butée et j'aurai le plaisir de me venger en allant dénoncer celui que tu m'as préféré. Ainsi, un peu de patience, ma mignonne. Aussitôt la chose faite, je t'amènerai ici 3 ou 4 agents de police pour te délier et te faire prendre l'air. »
Miko gagna la porte en disant
« Je te défie bien, ma toute belle, de te mettre maintenant à la travers de mes projets. Allez !»
Et la porte se referma.
Nul ne saurait peindre la rage, la stupeur et l'effroi d'Aliette, ainsi garrottée sur ce lit, où elle devait attendre, impuissante, pendant que s'accomplirait l'épouvantable crime qu'elle aurait voulu empêcher.
« Oh, tout est perdu !» s'écria-t-elle.
« Pas encore, madame Aliette !» lui répondit une voix.
Et le boucheron sortit en rampant de dessous le lit. En un clin d'œil, Aliette fut déliée par l'enfant qui riait de son étonnement.
« Comment, c'est toi, moucheron, mais par quel hasard te trouves-tu ici ?»«
Vous rappelez-vous que, cher Igobin, quand on a parlé du magot de Miko qui niait en posséder un, je lui ai demandé s'il consentait d'avance à me le donner dans le cas où je mettrais la main dessus. »
Eh bien, j'ai profité de ce qu'il était occupé au temple pour venir ici faire ma petite perquisition. J'étais en train de lui secouer son ménage quand il est rentré. J'ai eu que le temps de me fourrer sous le lit.
Et tu n'as rien trouvé?
Non, mais mon ami Miko possède une bien mauvaise habitude.
Laquelle?
Ben, c'est de parler tout haut quand il est seul. De sorte que je me doute à peu près maintenant où il a placé ses économies. Créneau, oh, que je mette la main sur sa grenouille et je m'en flanquerai à gorge des funambules. »
Tout en écoutant les confidences de son libérateur, Aliette rajustait sa toilette froissée par la lutte. Elle avait hâte de regagner la rue des Noyers. Peut-être le sage n'aurait-il pas eu le temps de décider et d'entraîner Soufflard, qu'elle regrettait d'avoir quitté. Dans son désir de tenir la promesse faite à l'écureuil d'empêcher l'assassinat, elle avait voulu s'assurer, par la présence de Miko chez lui,
que, après sa visite au restaurant, tout projet avait été abandonné. Et c'est ainsi qu'elle était tombée dans le guet-apens dont le moucheron l'avait délivrée.
« Écoute, môme, dit-elle à l'enfant, tu as bien entendu Miko me dire qu'il attendait le butage de la femme du temple pour aller ensuite dénoncer les amis.
« Mais un garçon qui vivra pas vieux, dit le mouchon, il va tomber sur un accident avant peu.
Cours chez ta mère, peut-être ton oncle y aura-t-il passé. Qu'il soit seul ou avec Soufflard, raconte les projets de Miko, dis-leur de ne pas bouger.
Compris, fit le gamin qui prit sa course.
Aliette parcourut une dernière fois des yeux cette chambre encore pleine pour elle de l'écureuil, puis elle partit à la hâte. Un quart d'heure après, elle atteignait le domicile de la rue des Noyers. Un tremblement la prit quand elle arriva devant la porte de la chambre. Si Soufflard était derrière cette porte, tout était sauvé. Elle le garderait à vue jusqu'au moment de l'arrestation de la bande et, resté seul, il n'oserait plus mettre son projet à exécution. Et si son amant était parti, c'est que le sage était venu. Il était alors trop tard pour arrêter ces deux bêtes féroces accouplées. Le sang allait couler et la belle blonde comprenait que dans ce cas, l'écureuil ne pouvait être à elle. « Mon sort va se décider, » se dit-elle. Elle poussa à la porte. La chambre était vide. Son émotion fut telle qu'il lui fallut se retenir à la muraille. Cette chambre déserte lui disait l'effrayante vérité. Le crime venait de partir en quête de sa victime. Sur la cheminée, Aliette aperçut un papier. Souvent, Soufflard la prévenait ainsi par un mot du motif de son absence ou lui donnait un rendez-vous. Le papier contenait ces mots. « Je sors avec le meunier pour aller examiner une boutique à dévaliser. Je rentrerai dans 2 heures. »«
C'est un mensonge pour m'endormir, » se dit Aliette.
L'écriture paraissait fraîchement écrite.
« Il est peut-être encore temps, » pensa la blonde. « Oh, il faut vite courir au temple. »
Elle s'élança pour sortir, mais à son premier pas sur le carré, elle se trouva face à face avec le sage qui allait frapper. À la vue du coquin, la joie emplit le cœur d'Aliette. Le sage arrivait donc en retard et le billet écrit par Soufflard disait la vérité. Il était réellement sorti avec le meunier. Le sage avait l'air souriant. « Bonjour, ma fille. Oh, je viens voir où tu en es de tes démarches pour délivrer Soufflard.
Rigobin doit me donner demain l'argent du Condé. Aussitôt reçu, mon homme paiera son permis de séjour et ils lèveront l'écrou.
Oh, tant mieux, car vois-tu, c'est triste de voir moisir une jolie affaire comme celle du temple. »
Dès que Soufflard sera délivré, je te préviens ou je te l'envoie.
Parfait.
Et tu pars bien vite.
Oh, je m'en vais flâner l'après-midi chez ma sœur et j'y mangerai la soupe. Car il me faut vivre au crochet de la pauvre Volard jusqu'à la sortie de Soufflard.
Un peu de patience.
Oh, j'en aurai. Adieu, ma belle. Surtout, n'oublie pas de me prévenir.
Sois tranquille.
Un énorme soupir de soulagement échappa à Aliette en fermant la porte derrière le sage. Tout était sauvé puisque les deux complices ne s'étaient pas rencontrés. Il ne lui restait donc plus qu'à attendre le retour de Soufflard. À ce moment, il était environ 3 heures. Elle prit un livre, s'étendit sur le lit et se mit à lire. La chaleur était étouffante et, on se le rappelle, Aliette était restée sur pied toute la nuit précédente. Peu à peu, aidée par la température lourde, le sommeil s'empara d'elle et sa main laissa tomber le livre. Ce livre était « Paul et Virginie ». Si nos lecteurs s'étonnent de voir cet associé de voleurs
choisir un tel livre, nous leur répondrons en esquissant à grands traits la vie d'Aliette qui, contrairement à ses pareils, n'était pas née dans cette fange et cette misère dont elle ne sort jamais. La blonde avait dit vrai à l'écureuil en lui contant qu'elle était née de parents morts ruinés après avoir été riche. Aliette avait 15 ans et était élevée dans un bon pensionnat quand la mort de ses parents, décédés à 1 mois de distance, la laissa orpheline et sans fortune. La maîtresse de pension s'était attachée à cette jeune fille dont l'intelligence et la remarquable beauté l'avaient séduite. Elle la garda près d'elle et en fit bientôt une sous-maîtresse de pensionnat. Elle était alors une enfant bonne, douce et naïve. La vie ne s'offrait plus à la jeune fille riche et luxueuse comme elle s'était ouverte, mais le bonheur et une modeste aisance devaient l'attendre, car sa maîtresse, veuve sans enfant, de plus en plus éprise de cette aimable et charmante créature, voulait l'adopter. Un misérable sans-cœur vit Aliette. 2 mois plus tard, elle était séduite et suivait son amant, loin de ce toit protecteur où elle laissait son bonheur. 1 an après, elle était mère. Son amant fit alors un important héritage. La soif de l'or le prit. Il chercha un beau parti à épouser et le trouva. Le mariage fut fixé à 1 mois de date. Aliette devenait donc un obstacle à ses projets. Cet homme était faible et lâche. Quand ces natures-là prennent une décision, elle est toujours brutale et cruelle. Le jour même où son notaire lui avait compté en beaux billets de banque les 400 000 francs de son héritage, il résolut d'en finir et le soir, à 11 heures, il chassa Aliette et son enfant âgé de 8 mois. La pauvre fille était presque devenue folle sous cet effroyable malheur qui la frappait tout à coup. Elle sortit, marcha devant elle sans voir, sans comprendre, sans rien sentir. Puis au coin d'une ruelle déserte, elle s'évanouit. Quand elle revint à elle, elle se trouvait dans une chambre près d'un homme qui la soignait et l'interrogea doucement. Elle raconta tout, parla de son amant qui l'avait chassé sans ressources, le jour même où il avait touché une énorme somme. À ce détail, l'homme l'interrogea plus minutieusement sur son séducteur, son logis et ses habitudes. Aliette parla sans méfiance. Le lendemain, l'amant était volé de ses 400 000 francs et se pendait de désespoir. Aliette avait été ramassée par Beaumont, le célèbre voleur. Quand elle apprit le vol, Aliette trembla d'être compromise. Beaumont la retint avec cette crainte et l'opprima. Cette vie d'angoisse et de honte avait altéré le lait d'Aliette, son enfant mouru. Il emportait avec lui les derniers bons sentiments de sa mère. Et peu à peu, elle se prit à aimer cet empire qu'elle exerçait sur l'ignoble tribu des voleurs qu'elle dominait par sa beauté, son énergie et son instruction. À Beaumont arrêté, une autre illustration du bagne succéda, et de bandit en bandit, elle était arrivée dans les bras de Soufflard, à peine âgée de 24 ans, et sans savoir encore, avant de connaître l'écureuil, ce que c'était que l'amour. Et voilà pourquoi, quand elle était seule, Aliette relisait tous ses livres tant de fois parcourus dans le bon temps, où, sous-maîtresse du pensionnat, elle était encore une jeune fille heureuse et pure. Étendue sur son lit, elle dormait toujours. Les 2 heures fixées par Soufflard pour son retour étaient passées depuis bien longtemps, car 8 heures du soir venaient de sauter à une horloge voisine. Aliette fut réveillée en sursaut par un coup sec frappé à la porte. Elle ne se rendit pas bien compte du temps écoulé pendant ce sommeil de 5 heures. « Ah, voici Soufflard qui rentre !» se dit-elle. Elle courut ouvrir la porte à quelqu'un qu'elle ne reconnut pas tout de suite et qui voulait l'embrasser. Elle lui mit la main sur la poitrine pour le repousser. « Eh bien, lui dit une voix connue, tu ne veux donc plus m'embrasser parce que j'ai coupé ma moustache et mes favoris ?» C'était Soufflard. Aliette retira la main qu'elle lui avait posée sur la poitrine. Seulement, au contact, elle avait senti le devant du paletot de Soufflard tout humide. Elle regarda sa main et poussa tout à coup un cri d'épouvante. Sa main était rouge de sang. Et comme, la langue paralysée par la terreur, elle interrogeait son amant d'un œil effaré, Soufflard lui dit tranquillement « Bon, le sang jaillit sur moi, mais tu sais, ma fille, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. » Aliette tomba évanouie. Quand, 5 heures avant, Aliette avait reçu la visite de le sage, qui, après avoir demandé des nouvelles de Soufflard, était parti en disant qu'il allait manger la soupe chez sa sœur, la Volard, elle s'était réjouie en croyant son amant bien loin et courant la ville avec le meunier. Alors qu'elle était heureuse qu'il ne se fût pas rencontré avec le sage, elle ne se doutait guère que son amant était seulement à quelques pas de cette porte qu'elle venait de refermer sur son complice. Voici ce qui s'était passé. 20 minutes avant le retour d'Aliette, le sage était venu et avait trouvé Soufflard seul. Il s'était étonné de rencontrer là celui qu'il croyait en prison, comme le lui avait annoncé Aliette. Soufflard lui avait appris les craintes superstitieuses de la belle blonde qui, au lieu de le laisser aller au rendez-vous, avait obtenu de lui qu'il restât enfermé au logis. Le sage avait écouté ses explications sans mot dire, puis il s'était dirigé vers la porte. « Où vas-tu ? » demanda Soufflard. « Je vais t'acheter un cerceau pour jouer au Luxembourg, quand ta bonne t'y conduira. »« Me prends-tu donc pour un enfant ?»« Ben, tu m'en as tout l'air, puisque tu te laisses mener par une femme, par Bobonne Aliette. »« On voit que t'as jamais été amoureux, toi. »« Alors, mon cher, on prévient. » On laisse pas les camarades en plan, surtout quand la veille on a fait les beaux bras en disant « Je suis de la partie ». La colère arrivait à Soufflard. « Crois-tu donc que j'ai peur ? » demanda-t-il. « lâcha le sage dédaigneusement. « Je fais mes preuves, ou pas aujourd'hui pourtant. Mais je t'ai déjà dit que... Oui, tu m'as dit qu'Aliette avait défendu au petit garçon de sortir sans sa permission. » Je m'étonne même qu'elle ne l'ait pas obligée à mettre un de ses jupons. Soufflard se sentait ridicule. L'amour-propre l'emporta. Mais au fait, vieux, tu as raison. Oh, au diable les caprices d'une femme, s'écria-t-il. Ah, la bonne heure, je retrouve un homme. C'est malheureux qu'il soit plus midi. Mais il n'y a encore que 3 heures, répliqua Soufflard, qui comprenait à demi-mot. Le sage le regarda bien en face. « Viendras-tu » demanda-t-il. « Mais pourquoi pas ?»« Tout de suite, à l'instant même. » Alors en route. » Il touchait à la porte quand Soufflard s'arrêta. Aliette s'est fourrée en tête, je ne sais pas pourquoi, d'empêcher le coup. Elle ne tardera pas à rentrer. Et en ne me voyant pas, elle va se mettre à notre poursuite et elle est capable de tout faire pour nous contrecarrer. Mais elle assure une fausse piste, conseilla aussitôt le sage. Oui, tu as raison. Et Soufflard écrivit et plaça sur la cheminée le billet dans lequel il annonçait être sorti avec le meunier. Maintenant, filons, dit-il. Au moment où les deux complices posaient le pied sur l'escalier, un froufrou de robe se fit entendre en bas. C'était Aliette qui montait. La retraite allait leur être coupée. « Grimpons à l'étage au-dessus !» souffla vivement le sage. Aliette rentra chez elle sans se douter qu'ils étaient si proches.
« Des talons !» dit le sage.
Soufflard l'arrêta dans son élan. « Non, restons un peu, dit-il. Aliette est fine. Oh, elle ne croira pas en mon billet. Nous allons peut-être l'avoir filée en chasse après nous. »
« Alors attends un moment, répliqua le sage. Moi, je vais jouer une petite comédie de ma façon. »
Il redescendit l'étage et il se préparait à frapper à la porte quand elle s'ouvrit. Ainsi que l'avait prévu Soufflard et comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, Aliette s'élançait à leur poursuite. La vue de le sage l'arrêta. C'est alors que ce dernier lui fit cette visite à la suite de laquelle Aliette, tranquillisée, s'endormit de ce sommeil dont le réveil devait lui être si terrible. Soufflard avait été guetter le sage au premier coin de rue. 10 minutes après, le sage le rejoignait.
« Enfoncez ta princesse, lui dit-il. Il n'y a vu que du feu. Elle est maintenant des talons. Il n'est juste que de temps. »
Ils prirent leur course. 3 heures sonnaient comme les deux misérables entraient dans la maison du numéro 91 de la rue du Temple. L'ancien marché du Temple et sa rotonde ne sont pas déjà si vieux et disparus qu'il nous en faille faire une description qui retarderait notre récit. Nous conduirons tout de suite notre lecteur devant une boutique dont il a été déjà parlé, celle des époux Renaud, marchands de literie. Par son travail, le ménage avait acquis une modeste aisance qui, grossie par les commérages, passait pour une vraie fortune. Ainsi que la Volard l'avait expliqué chez le receleur Rigobin, le mari gardait la boutique du marché où se vendaient les marchandises communes et d'un écoulement facile. Des articles de qualité supérieure étaient emmagasinés dans l'appartement que le ménage possédait au numéro 91 de la rue du Temple. Là, Madame Renaud recevait les chalands que le mari n'avait pu satisfaire avec les marchandises de la boutique. Si les époux, encore jeunes, travaillaient avec courage, c'était moins pour eux que pour assurer l'avenir de leur unique enfant, Elisa, fillette de 15 ans, qui en ce moment même tenait compagnie à son père. Il était 3 heures de l'après-midi, avons-nous dit, et le soleil brillait resplendissant au milieu d'un ciel sans nuages. Depuis 5 minutes, debout sur le bas de sa boutique et le nez braqué sur le ciel bleu, M. Renaud paraissait réfléchir. Il se tourna bientôt vers sa fille. « Dis donc, chérie, est-ce que par un tel beau temps, tu n'aimerais pas respirer un peu d'air de la campagne ?»«
Oh oui, petit père !»«
Et à croquer une bonne friture au bord de l'eau après une promenade en bateau ?» La jeune fille secoua la tête en faisant une petite moue des lèvres.
« Bon, ce que c'est vilain d'être méchant comme cela, bon père !»«
Comment, je suis méchant, moi ?»
Oui, en proposant toutes ces bonnes choses-là, quand tu sais qu'elles ne sont pas possibles un jour de la semaine.
Et pourquoi donc, mademoiselle?
Ben, qui garderait la boutique?
Parbleu, elle se garderait toute seule, quand nous la fermerions.
Vrai?
S'écria l'enfant joyeuse. Une fois n'est pas coutume, les gens de gros de la vente se font habituellement le matin. Et le matin est déjà bien loin.
Oui, nous ne verrons plus grand monde maintenant, ajouta Elisa.
Oui, allez, c'est décidé, nous allons donner un bon campo. La jeune fille sauta de plaisir au cou de son père et l'embrassa. Pendant que je ferme la boutique, cours bien vite à la maison prévenir ta mère et l'aider à s'habiller.
Je pars comme l'éclair, dit Elisa en souriant à la hâte.
Surtout, ne soyez pas 2 heures à votre toilette si c'est possible, cria Renaud en riant. La jeune fille se retourna et pour toute réponse lui envoya un baiser.
La mère et la fille vont être bien heureuses de cette bonne partie, se disait le brave homme, en suivant des yeux son enfant qui courait vers la maison. Arrivée à la porte, Elisa se retourna et lui envoya un second baiser. Puis elle entra dans l'allée. La voleur avait bien raison, on le voit. Quand Chéri Gobin, le receleur, elle avait dit aux deux misérables « C'est votre chance qui décidera si vous aurez une ou deux femmes à l'assassiner. » Cette fois, sans inquiéter d'être vus par les concierges, les deux complices avaient passé devant la loge et étaient montés au troisième. Comme à la première tentative, le sage apprêta son couteau dans la manche de son paletot. Soufflard, privé du sien par Aliette, en avait acheté en route un autre à lame fixée aux manches et l'avait glissé dans sa ceinture de pantalon un peu derrière la hanche. N'ayant plus les fausses clés, emportées le matin dans sa fuite par Bicot et qu'il avait jeté dans un soupirail sur sa route, ils frappèrent hardiment. Le bruit des pas de Madame Renaud qui approchait résonna dans le couloir. « Ne dis rien, je parlerai, moi !» dit vite le sage. Ils entendirent la serrure grincer, puis la porte tourna sur ses gonds, et la marchande apparut. Dans l'obscurité du couloir, elle ne distingua que deux hommes, sans pouvoir reconnaître celui qui l'avait déjà vu le matin. « Entrez, messieurs, » dit-elle. Ils passèrent devant elle, qui s'effaça, et marchèrent en avant pendant qu'elle fermait la porte. En arrivant dans la chambre, le premier regard de le sage fut pour la fenêtre. Cette fois, elle était hermétiquement fermée. À ce moment, Madame Renaud, qui les avait suivis, reconnut le sage. Une sorte de pressentiment sembla l'avertir qu'elle courait un danger et elle fit un pas vers la porte. Mais Soufflard, sans paraître y faire attention, lui fermait le passage. De son côté, le sage s'était placé entre la marchande et la fenêtre. Madame Renaud était une femme dans toute la force de l'âge, vigoureuse et brave. Elle eut honte d'avoir peur et aborda le sage. « Oh, c'est monsieur que j'ai déjà eu l'honneur de voir ce matin, » lui dit-elle. « Mais précisément, j'étais venu pour marchander des couvertures avec un ami qui s'est tout à coup trouvé indisposé. J'ai dû le suivre et nous avons quitté un peu brusquement. Oh, cette fois, je reviens terminer l'affaire et en même temps, je vous amène un second acheteur. » Madame Renaud salua légèrement Soufflard et lui demanda « Ah, monsieur désire aussi des couvertures ?»« Précisément, oui. » Les couvertures étaient placées sur un rayon élevé. Pour les atteindre, Madame Renaud devait monter sur un marchepied en tournant le dos aux deux misérables. Elle disposa donc l'échelle et monta. Soufflard fit un signe à le sage. En une seconde, ils eurent le couteau au poing. Les bras chargés de couverture, la marchande descendait les échelons. Au moment où elle touchait le plancher, le sage s'élança d'un bond et porta le premier coup en visant entre les deux épaules de la victime qui lui tournait le dos. Mais l'assassin avait mal calculé son élan. Le fer atteignit la tempe et déchira la joue. La femme n'eut pas d'abord conscience de ce coup, et elle se retourna. Alors elle vit la figure et l'arme des scélérats, et en une seconde elle devina le sort qui l'attendait. Avant qu'elle pût crier, Soufflard l'enlaçait d'un bras et lui appuyait la main sur la bouche. Au même instant, le couteau de le sage se plongeait dans la gorge et pénétrait jusqu'au larynx. Un jet de sang s'élança et vint inonder la poitrine de Soufflard qui maintenait la victime.
La malheureuse était robuste et le désespoir décuplait ses forces. Elle secoua l'étreinte de soufflard et tenta d'atteindre la fenêtre. Les meurtriers virent le mouvement et s'élancèrent à sa rencontre. Alors elle s'accula dans un coin de la chambre, derrière un comptoir, se faisant un bouclier d'une couverture que ses mains avaient rencontrée. Elle voulut crier, mais l'horrible blessure à la gorge l'avait rendue muette. Un sifflement rauque sortit seul de sa bouche qu'un flot de sang vint emplir. Elle comprit qu'il lui fallait renoncer à tout, à appel au secours et qu'elle allait mourir. Entre cette victime qui ne pouvait plus parler et ses meurtriers, qui d'un œil sans pitié guettait l'instant de frapper encore, régnait un horrible silence. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge en bois dans la pièce voisine et le chant joyeux des oiseaux d'Elisa dont la cage pendait en dehors de la fenêtre fermée. Encore debout, les pieds dans une mare de sang qui s'écoulait de ses blessures, les yeux intrépidement rivés sur ses assassins dont elle suivait tous les mouvements, Madame Reynaud cherchait toujours à parer chaque attaque. C'était une lutte muette et épouvantable, sans merci d'un côté, sans espérance de l'autre. Les deux assassins se ruaient sur elle, frappaient, reculaient, et repoussés par cette femme que le paroxysme du désespoir rendait toujours forte et vaillante. Outre la blessure du cou, terrible et béante, elle avait reçu 12 coups de couteau, mais qui n'atteignait aucune partie vitale. Seulement, la victime sentait une sueur froide lui mouiller le front. Ses tempes battaient, un étrange bruissement lui tintait à l'oreille, et sa vue se voilait. Elle comprenait que le sang perdu l'épuisait, et avant peu, devait la laisser sans force devant ses bourreaux. Elle voulut encore tenter un dernier effort et atteindre la fenêtre dont elle briserait les vitres. Elle abandonna son angle et fit un pas en avant. Le poignard de le sage lui fendit la main qui se desserra et laissa échapper la couverture. Et au même instant, Soufflard la frappait au ventre. Alors la pauvre femme, adossée à la muraille à laquelle elle cherchait à se retenir, sentit le plancher qui lui manquait. Ses jambes fléchirent et elle s'affaissa, brisée et mourante, mais l'œil toujours trépide, intrépide et fixé sur les meurtriers. Ceux-ci s'étaient reculés et émus un instant par cette vaillante agonie. « Achevons-la !» dit Soufflard. Ils levèrent le bras, mais ils ne la baissèrent pas. Tous deux restèrent subitement immobiles, effrayés et surpris. On frappait à la porte. Les coups se succédaient, faibles et rapides. Les deux bandits se regardèrent. Ils étaient blêmes et tremblants. À la manière de frapper, ils cherchaient à deviner à quel survenant ils avaient affaire. Ils abandonnèrent la victime pour aller sans bruit écouter derrière la porte. La mourante n'avait pas eu besoin de deviner. À ses coups bien connus d'elle, elle n'aurait été pas son enfant. L'épouvantable frayeur de voir sa fille tomber sous les coups des assassins lui rendit subitement des forces. Elle se releva et marcha en s'accrochant à tous les meubles pour gagner la porte. En ce moment, la fenêtre était libre. Elle pouvait aller ouvrir. Son propre salut était là, mais la mère mourante et épuisée préférait aller au secours de son enfant à laquelle sa gorge coupée ne lui permettait plus de jeter un cri d'alarme. Les coups cessèrent bientôt. Un bruit de pas apprit au meurtrier qu'on s'éloignait. Il avait été aussi entendu par la mère et elle s'arrêta. La pensée que sa fille était sauvée illumina de joie la figure de la mourante. Mais aussitôt, deux larmes s'échappèrent des yeux de la pauvre mère, qui songea qu'elle ne reverrait plus cette fille tant aimée, dont la mort allait la séparer. En regagnant la chambre, les deux misérables la retrouvèrent debout. « Elle a donc l'âme chevillée au corps !» grinça Soufflard. En bondissant sur elle, il lui enfonça entre les deux épaules son couteau qui trancha la moelle épinière. L'infortunée marchande ouvrit les yeux démesurés, agita ses lèvres convulsives, battit l'air de ses mains et tomba foudroyée, la face contre terre. Elle était morte. Cette fois, elle a bien son affaire, souffla le sage en la remuant du pied. Oui, c'est le fameux atout empronné par la volare, répliqua l'autre. À ce moment, Elisa regagnait la boutique où l'attendait Renaud, tout joyeux. Eh bien, demanda-t-il à sa fille, j'espère que ta maman a été contente de mes projets de campagne. Mais j'ai frappé, elle ne m'a pas répondu. Pas assez fort, mignonne, mais si, comme d'habitude. Oh, il fait si chaud qu'elle se sera endormie sur sa chaise. Tiens, voici la clé de la boutique, elle est lourde comme un marteau. Retourne faire tapage à la porte. Je vais faire un bruit à réveiller un mort, dit en riant la jeune fille, qui ne se doutait pas de l'épouvantable à propos de sa plaisanterie. Et elle reprit le chemin de la maison. Elisa remonta les trois étages. Quelques marches avant d'atteindre le palier, elle vit un homme qui descendait, se retournait à ce moment vers un autre individu sortant de la chambre. « Ferme la porte !» lui dit-il. L'autre tira la porte. « Non, non, ne fermez pas, monsieur, je veux entrer !» cria trop tard la jeune fille à ce second personnage, qui, se préparant à descendre, se présentait bien de face à l'enfant, qui put ainsi voir sa figure. C'était le sage. Le sage passa vivement près d'elle, sans s'excuser d'avoir fermé la porte, malgré sa prière, et la jeune fille monta les quelques marches qui la séparaient du palier. Les deux assassins descendirent à la hâte. Elisa, les yeux fixés sur la porte, se mit à faire jouer à grands coups l'énorme clé que lui avait prêtée Renaud, et comme elle voulait écouter si sa mère venait, elle appuya l'oreille sur la porte et dans ce mouvement, elle baissa la vue. Alors, sur le palier, elle vit, apparaissant humide, la trace des pieds des deux hommes qu'elle avait rencontrés. Sur une de ces marques, Elisa posa son doigt et le retira teint de sang. L'enfant poussa un cri, un seul cri vibrant, aigu et plein d'une horrible épouvante. À cet appel douloureux, les deux concierges accoururent. L'émotion étranglait l'enfant qui, ne pouvant parler, montrait du doigt la piste sanglante. Ils comprirent aussitôt et le mari courut prévenir le pauvre Renaud. En un instant, dans tout le marché du temple, se répandait la lugubre nouvelle. Un homme était à ce moment dans le marché qui marchandait des vêtements. C'était l'agent l'écureuil. Venu au temple pour acheter quelques-uns des haillots avec lesquels il se travestissait pour ses chasses à l'homme, le policier apprit aussitôt le meurtre.